Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le cas typique de l'histoire qu'on croit connaître, mais qu'en général on est absolument incapable de raconter. Le scandale du Watergate qui éclate en 1972 aux États-Unis et qui conduit 2 ans plus tard à la démission du président des États-Unis, Richard Nixon. On y fait beaucoup référence ces temps-ci au scandale du Watergate quand on parle par exemple de Donald Trump et de ses étranges contacts avec la Russie pendant la dernière campagne électorale américaine. Est-ce que ça n'est pas, dit-on, un nouveau Watergate? Voici donc l'affaire du Watergate, une histoire que j'ai écrite avec Cédric Lastenet, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au cas où vous ne le sauriez pas, le Watergate, c'est d'abord le nom d'un building de Washington, posé sur le bord du fleuve Potomac, un grand complexe immobilier tout en rondeur, emblématique de l'architecture des années 60. Un hôtel, 600 logements et 2 immeubles de bureaux qui hébergent entre autres le quartier général du Parti démocrate. C'est ce qui va se passer maintenant dans ce bâtiment qui va donner son nom à toute cette affaire, le scandale du Watergate. Nous sommes le 17 juin 1972, à 6 mois de l'élection présidentielle au cours de laquelle le président sortant, le républicain Richard Nixon, va remettre son mandat en jeu face au démocrate McGovern. Il est 1h du matin. Et comme tous les soirs, le gardien du Watergate fait sa ronde. Et dans un parking, il voit que la porte qui mène aux étages est ouverte. Il la ferme en pestant contre les femmes de ménage qui ont oublié de la refermer. Et puis il repasse un peu plus tard et la porte est encore ouverte. Et là il se dit, il y a un problème. D'autant que la serrure a été forcée, alors il appelle la police.
Oui, bonsoir. Ici la sécurité du Watergate. Dites-moi, je pense qu'il y a des cambrioleurs dans le bâtiment. Hein. Vous pourriez venir ?
Les policiers déboulent quelques minutes plus tard, armes au poing. Et ils inspectent le bâtiment, étage par étage. Et au 5e étage, l'étage qui héberge le siège de campagne du Parti démocrate, il tombe sur 5 types. 5 types qui portent tous des gants en caoutchouc.
Vous ne bougez pas ! Les mains en l'air !
Ce qui est bizarre, c'est l'équipement de ces 5 lascars. Comme ça, ils ressemblent à des cambrioleurs, mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont des appareils photo, des talkie-walkie, des bombes de gaz lacrymogène et surtout du matériel d'espionnage, des micro-espions. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds ? Tous les 5 sont conduits sur le champ au poste de police du 2e district. Le lendemain vers 9h, le rédacteur en chef du Washington Post appelle l'un de ses jeunes reporters, Bob Woodward.
Dis donc, Bob, je voudrais que tu te mettes sur cette affaire de cambriolage, là, cette nuit, au Watergate, à l'étage des démocrates, en pleine campagne. Rencarde-toi là-dessus.
Bob, 29 ans, est un bleu au Washington Post. Il est là depuis 1 an. Avant, il était dans la Navy, la marine. Ça ne lui a pas plu, alors il s'est reconverti dans le journalisme. Et depuis 9 mois, il s'occupe des affaires de police. Donc c'est logique, cette histoire de cambriolage est pour lui. Et là, le jeune Bob apprend que les 5 cambrioleurs vont être présentés à un juge. Alors il va au tribunal, aux États-Unis c'est public. Et Bob est là quand les 5 types entrent dans la salle d'audience. Nerveux. Et à un moment, le juge se tourne vers celui qui a l'air d'être le leader de la bande. Un certain James McCord.
Monsieur, quelle est votre profession ?
Conseiller en sécurité.
Où ça ? Parlez plus fort.
Je viens de lâcher un job dans le public.
Ah bon ? Où ça dans le public, monsieur ?
À la CIA.
Le jeune Bob Woodward n'en revient pas. L'un des cambrioleurs a travaillé à la CIA. Et il traînait en pleine nuit près du siège du Parti démocrate. Cette histoire de cambriolage est plus intéressante que prévu. Et du coup, le Washington Post décide de mettre d'entrée 8 journalistes sur cette affaire de cambriolage. C'est beaucoup, mais il y a une raison à ça. Ce matin, la grande agence américaine Associated Press a révélé que ce James McCord, qui a dit au juge qu'il avait travaillé pour la CIA, est aujourd'hui salarié de la campagne de Nixon. Incroyable ! Donc, ça sent l'embrouille, ça sent le coup fourré, ça sent la manœuvre du parti républicain pour essayer de piéger la campagne des démocrates. Ça mérite donc 8 journalistes. Dans cette enquête qui débute, le jeune Bob Woodward va travailler en duo avec un collègue plus expérimenté, Carl Bernstein, 9 ans de métier. Tous les deux sont divorcés, sans femme, sans enfant. Ils sont libres de se consacrer à plein temps à leur enquête. Et à ce James McCord, par exemple. A priori, un type sans histoire, droit dans ses bottes, jamais de vagues. Bon. Et c'est là que notre duo apprend, par un coup de fil d'un autre journaliste du Poste, que la police a fait une drôle de découverte après les cambriolages.
J'ai appris que l'un des cambrioleurs, au moment de l'arrestation, avait dans sa poche les clés d'une chambre d'hôtel. Alors les flics ont fouillé la piole. Tu sais pas ce qu'ils ont trouvé ?
Non. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Un carnet.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce carnet ?
Une liste de noms, figure-toi. Avec des numéros et notamment le nom d'un certain Howard Hunt, accolé à 2 lettres. WH.
Tu veux dire WH comme White House ? Maison Blanche ? Waouh ! C'est bon, ça ! Et donc, le lendemain, Bob Woodward enchaîne les coups de fil. Et il active un vieux contact qui remonte au temps où il était dans la Navy, un certain Mark Felt, directeur adjoint du FBI. Pas mal. Il l'appelle. Allô ? Mark ? Bonjour, c'est Bob. Bob Woodward, vous vous souvenez ? Dites donc, Mark, j'aimerais vous parler du cambriolage du Watergate.
Hola, j'aime pas que vous m'appeliez au bureau, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire va faire du bruit, mais je peux rien vous dire de plus.
Et là, Mark Felt raccroche. Bon, alors si on en revenait au carnet et à ce nom collé aux lettres WH, Howard Hunt, qui c'est celui-là ? Et là, le plus naturellement du monde, Bob appelle le standard de la Maison Blanche. On va voir. 456, 14, 14. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Howard Hunt, s'il vous plaît ?
Ah, il n'est pas dans son bureau, mais il est peut-être dans le bureau d'un conseiller spécial du président.
Bingo ! Cet Howard Hunt travaille bien à la Maison Blanche, et pas au service du courrier, hein, dans l'entourage immédiat du président. Intéressant. En fait, Bob découvre qu'il travaille pour une société de relations publiques. Alors il appelle sa boîte.
Monsieur Hunt ?
Bonjour, Bob Woodward du Washington Post. Dites-moi, je vous appelle pour vous demander, pourquoi est-ce que votre nom figure dans des carnets qui appartiennent aux cambrioleurs du Watergate ?
Bon Dieu ! Aucun commentaire !
Et là, Howard Hunt raccroche. Alors Bob appelle le patron de cette boîte de relations publiques. Et il apprend que Howard Hunt, avant, travaillait pour la CIA. Lui aussi ! Ça commence à sentir très bon, d'autant que Hunt... Et ça, c'est le FBI qui le lui confirme, est considéré comme le boss de cette équipe de cambrioleurs poseurs de micros. Le boss, eh bien, il vient tout droit de la CIA. Et il a ses entrées à la Maison Blanche. Elle est pas belle, celle-là ? Et tout ça donne un premier article dont le titre est « Un lien entre les poseurs de micros et un conseiller de la Maison Blanche ». Du coup, la Maison Blanche est contrainte de réagir. L'accusation est grave. Elle minimise. C'est exagéré. C'est un cambriolage de seconde zone. La présidence a autre chose à faire que de commenter ce genre d'histoire. Circuler. Nothing to see. Sauf que les deux journalistes, Woodward et Bernstein, ne lâchent pas l'affaire pour autant. Et ils découvrent que l'un des cambrioleurs a encaissé des chèques juste avant d'être arrêté. Et d'où venaient ces chèques? Eh bien, directement des caisses du comité de campagne du président Nixon. Ils ont été signés par l'un des cadres de la campagne. Oui, monsieur. Énorme. Ils ont payé leurs hommes de main avec le carnet de chèques du comité de campagne du président des États-Unis. C'est hallucinant. Donc, si on se résume, dans cette bande de pieds nickelés qui s'apprêtait à poser des micros au Parti démocrate, il y avait deux anciens de la CIA qui travaillent aujourd'hui tous les deux pour la campagne de Nixon, et un troisième larron qui a encaissé des chèques venant directement du comité de campagne du président. Qu'est-ce que ça suggère, ça, à 6 mois de l'élection présidentielle? Eh bien que le coup tordu du Watergate a été monté par l'entourage de Richard Nixon. Avec leur micro, ils ont tenté de mettre les démocrates sur écoute. Ça mérite un nouvel article. Dans leur papier du 1er août 72, Carl Bernstein et Bob Woodward établissent un lien direct entre le cambriolage du Watergate et les fonds de campagne de Nixon. Ça commence à sentir très mauvais pour le président sortant. Je vous ai déjà parlé de Mark Felt, le directeur adjoint du FBI. Bob Woodward le connaît bien, ça remonte à l'époque où il travaillait dans la Navy. La première fois que Bob lui a parlé de cette histoire, vous vous souvenez qu'il a raccroché direct. Genre, t'es fou, on parle pas de ça au téléphone. Donc Bob essaye de le recontacter. Mais l'autre fait le mort. Alors il va le voir chez lui, en Virginie. Et là, il trouve un homme stressé, nerveux, et pas mécontent que les deux journalistes aient découvert la connexion entre la campagne Nixon et les pseudo-cambrioleurs. Felt a l'air d'avoir avalé une couleuvre un peu indigeste. Il veut que cette histoire sorte, alors que la Maison-Blanche cherche plutôt à l'étouffer. Donc, il veut bien collaborer avec les deux journalistes. Mais attention, pas de rencontre au grand jour, pas de coup de fil. Si on veut se voir, on s'envoie des signaux discrets. Ok ? Voilà ce qui est convenu. Bob veut voir Felt, il déplace un pot de fleurs sur son balcon. Felt veut voir Bob, il vient faire un dessin sur la page 20 de son exemplaire quotidien du New York Times, une petite horloge, les aiguilles donnant l'heure du rendez-vous. Ils conviennent tous les deux de se voir, le soir, dans un parking souterrain. C'est un événement considérable. Le directeur adjoint du FBI devient l'informateur privilégié du Washington Post dans une affaire qui met en cause le président des États-Unis. Même si Felt annonce d'entrée qu'il ne balancera rien qui vienne de l'enquête du FBI. Il les guidera, c'est tout. Et il confirmera des choses. Les deux hommes ont aussi convenu qu'au Washington Post, personne d'autre que Woodward ne saura qui et l'informateur. Personne. Et c'est là qu'on lui trouve un petit nom. Deep Throat, gorge profonde. Ça fait marrer tout le monde parce qu'à l'époque, c'est le nom d'un film à l'affiche dans les cinémas porno. Les informations livrées par gorge profonde seront considérées comme fiables par le journal, bien qu'il ne puisse pas citer la source. Et pendant ce temps-là, la campagne suit son cours. On est maintenant à 3 mois du scrutin et Nixon est le grand favori.
Aux États-Unis, si les Américains désignaient aujourd'hui un successeur au président actuel, ce serait M. Richard Nixon. 57% d'entre eux marquent leur préférence pour M. Nixon. M. McGovern semble perdre du terrain. Et le plébiscite de Richard Nixon hier à Miami par ses amis républicains le place incontestablement sur les rails de la victoire.
La campagne continue, mais l'enquête du FBI se poursuit. Le 15 septembre, les membres du commando du Watergate et Howard Hunt, l'homme du carnet, sont tous inculpés. Mais ça ne va pas au-dessus. Ça ne va pas jusqu'à l'entourage immédiat de Nixon. Les deux journalistes du Washington Post ont donc encore du boulot pour que, dans cette affaire, on ne fasse pas payer les lampistes. Et là, ils vont faire deux découvertes. Il existe une caisse noire dans le comité de campagne de Nixon, dont l'objectif est de nuire aux démocrates. Et deuxième info, c'est l'ancien ministre de la Justice de Nixon, John Mitchell, devenu président du comité de soutien, qui gère cette caisse noire. L'ancien ministre de la Justice. On se rapproche de Nixon. Et donc, Bob Woodward déplace un pot de fleurs sur son balcon, il veut parler à Felt. Et ils se retrouvent tous les deux dans le parking souterrain. Felt est là, tirant sur sa cigarette, il a l'air épuisé. Mais il confirme le rôle de l'ex-ministre de la Justice.
Ouais, c'est vrai. Mitchell est impliqué. Et je peux vous dire aussi que le conseiller pour les affaires intérieures de la présidence est impliqué lui aussi. C'est lui qui a ordonné à Howard Hunt de quitter la ville récemment. Mais alors, est-ce que la Maison Blanche est vraiment derrière tout ça? Mais bien sûr qu'elle est derrière tout ça. Faites un effort pour comprendre ce que je vous dis. Gorge Profonde raconte ensuite qu'il y a au moins 50 saboteurs, 50 espions dans l'équipe de Nixon, chargés depuis le début de la campagne de piéger les démocrates. Et il ajoute une information capitale. Le ministère de la Justice sait tout ça. Et le FBI aussi. Ce soir-là, les deux hommes passent toute la nuit assis dans ce parking à parler. Ils se quittent à 6h du matin. Bob Woodward et Carl Bernstein ont maintenant suffisamment de matière pour un nouvel article. Dans son livre sur Gorge Profonde, Bob écrira plus tard. À présent, nous avions peut-être notre histoire la plus importante. Les agents du FBI ont établi que l'incident des micros du Watergate est lié à une campagne massive de sabotage et d'espionnage politique pour permettre un second mandat de Nixon. Elle est conduite directement par des employés de la Maison-Blanche et du comité pour la réélection du président. Mais malgré cet article, pourtant très explicite sur l'implication de Nixon dans le scandale, le président sortant est réélu triomphalement aux élections de novembre 72.
Si tout le monde s'attendait à la réélection du président Nixon, peu nombreux sont ceux qui auraient parié avec certitude que M. Nixon remporterait 61% des voix contre 38 qui sont allés à McGovern. De plus, le président Nixon a remporté les élections dans 49 des 50 États que comptent les États-Unis. C'est un triomphe.
Nixon est réélu, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Mais là encore, ça n'arrête pas l'enquête des deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein. Même si, surtout depuis la réélection de Nixon, ils en prennent plein la figure. On les accuse d'assassinat politique, les républicains disent qu'ils font du journalisme de Camelot. N'empêche que mi-janvier 1973, le Sénat, que Nixon ne contrôle pas puisqu'il est à majorité démocrate, crée une commission d'enquête parlementaire sur les abus commis par les républicains pendant la campagne électorale. Et pendant ce temps-là, le procès des faux cambrioleurs a commencé. Et en plein procès, l'un des poseurs de micro lâche la Maison-Blanche. Il écrit au juge pour dire qu'il a menti sur pression de la présidence des États-Unis. Et à la fin du procès, les membres du commando sont condamnés à des peines de 20 à 4 ans de prison, mais le juge leur explique que ces peines ne sont pas définitives. S'ils parlent, s'ils balancent, alors les peines seront adoucies. Vers la mi-mai 1973, Bob Woodward prend un dernier rendez-vous avec Felt. Un soir à 23h, dans le parking. Il le trouve dans un sale état. Et pour cause, Felt lui annonce qu'il arrête, qu'il prend sa retraite, qu'à partir de maintenant, tout le monde est en danger de mort, que la CIA surveille tout le monde.
Voilà. Vous savez tout de la situation.
Je dois vous laisser ici. Soyez prudent, Bob. Soyez prudent.
Au mois de mai 1973, Nixon est contraint de s'expliquer publiquement.
La gorge serrée, les larmes aux yeux, l'un des chefs d'État les plus puissants dans le monde, le président américain Richard Nixon, a plaidé non coupable devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. C'était la nuit dernière aux États-Unis où le caractère, disons insolite, de l'allocution de M. Nixon n'a échappé à personne.
Et il a semblé ne rien dissimuler, qualifiant l'espionnage politique du Watergate d'action illégale et insensée. On pourrait résumer en disant que le président américain a plaidé coupable par ignorance ou par manque de vigilance.
Maintenant, Bob Woodward et Carl Bernstein s'attellent à l'écriture d'un livre sur l'affaire. Les articles, c'est bien, mais un livre, ça ramasse toutes les infos. Alors pendant 6 semaines, ils s'enferment en Floride dans un ranch. Bob écrit dedans, Carl près de la piscine. Ils écrivent au rythme de 10 pages par jour et à la fin, ça donne un pavé de 500 pages qui raconte toute l'histoire, tout ce qu'ils ont appris depuis le début. L'idéal, bien sûr, serait de citer le nom de leurs différentes sources. Certains acceptent, mais pas Mark Felt.
Ah non, Bob, hein. Il en est hors de question. Mais comment est-ce que tu peux même envisager une seule seconde que j'accepte ?
Donc, dans le livre, Felt restera Deep Throat, gorge profonde. Le duo rend son manuscrit fin 1973. Le livre s'appellera All the President's Men, en français, Les fous du président. Mais ce qui va couler Nixon, c'est un enregistrement rendu public le 5 août 1974, dans lequel on entend très clairement le président autoriser la CIA à intervenir auprès du FBI pour enterrer l'affaire. La position de Nixon devient intenable et 3 jours plus tard, il jette l'éponge dans une allocution télévisée.
Les intérêts de la nation doivent passer avant toute considération personnelle. D'après les discussions que j'ai eues avec les dirigeants du Congrès, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en raison du Watergate, je n'aurais peut-être pas l'appui du Congrès que je jugerais nécessaire pour soutenir les décisions très difficiles à prendre et remplir les fonctions de président telles que les intérêts de la nation l'exigent. Continuer à me battre pendant les mois à venir pour ma défense personnelle absorberait presque totalement le temps et l'attention du président et du Congrès à une époque où nous devrions nous concentrer sur les grandes questions de paix à l'étranger et de prospérité de notre pays. Par conséquent, je démissionnerai de la présidence demain à midi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.